Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Hommage du pape François aux sœurs pour leur travail au quotidien au sein de l'Église et dans la société. Lors de cette journée consacrée à la vie consacrée, le pape lors de l'Angélus est revenu sur l'importance de ces personnes qui sont un don de Dieu à son Église et à son peuple. Lors de la messe un peu plus tôt dans la journée, il a expliqué que la présentation de Jésus au temple, dont c'était la solennité ce dimanche, était la rencontre entre les jeunes et les anciens, entre l'observance et la prophétie. Manif pour tous en France, nouvelle mobilisation pour la défense de la famille à Lyon et à Paris. Dans la ligne de mire des manifestants, le projet gouvernemental sur la famille. Nous entendrons un des porte-parole du mouvement. Et puis, comme tous les dimanches, nous retrouverons dans la seconde partie de ce magazine l'invité de Catherine Aubin. Il s'agit de Catherine Chalier, que nous retrouvons après un premier entretien la semaine dernière. Bienvenue dans le magazine de Radio Vatican. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de sœurs dans les hôpitaux, dans les missions, dans les écoles? Le pape François, lors de l'Angélus de ce dimanche, solennité de la présentation de Jésus au Temple et 18e journée de la vie consacrée, a rendu un hommage appuyé aux religieuses engagées au quotidien au cœur de nos sociétés. Face à une foule qui a bravé le mauvais temps et la pluie persistante, le pape a rappelé l'importance pour l'Église de ceux qui ont accueilli la vocation de suivre Jésus de près sur la voie des conseils évangéliques. Marie Duhamel.
Laïcs et religieux, tous sont appelés à consacrer leur vie à Dieu de par leur baptême, dans leur famille, au travail, dans le service de l'Église et dans les œuvres de miséricorde. Mais les personnes consacrées le font d'une manière pleine et exclusive, portant la lumière du Christ là où les ténèbres se font plus épaisses. Elles sont le levain pour la croissance d'une société plus juste et fraternelle. La vie consacrée est donc pour le pape un don de Dieu à l'Église et à son peuple. Les religieux, moines, laïcs consacrés, renforcent et rénovent l'engagement de l'Église dans l'éducation chrétienne, la formation humaine, spirituelle des jeunes, des familles, la charité envers les plus nécessiteux et l'engagement pour la justice et la paix au sein de la famille humaine. Il est donc nécessaire de valoriser avec gratitude les expériences de vie consacrées et d'approfondir la conscience des divers charismes et spiritualités. Il faut prier pour que de nombreux jeunes répondent oui au Seigneur qui les appelle à se consacrer totalement à lui pour un service désintéressé à leurs frères. Pour promouvoir les vocations, le pape a confirmé que l'année 2015 sera dédiée à la vie consacrée pour maintenir cette flamme toujours vive.
Marie Duhamel. Et dans la matinée, le pape a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre, en présence notamment des personnes ayant fait le choix de la vie consacrée. C'est à la lueur des chandelles qu'a fait son entrée dans la basilique la procession composée notamment de 25 religieuses et de 25 religieux représentant diverses congrégations et venant de tous les continents. Dans son homilie, le pape François a souhaité que Jésus soit toujours au centre de la vie des religieux, rappelant la rencontre des veillards Anne et Siméon avec Jésus et ses parents. Le pape a expliqué que cette présentation de Jésus au temple était aussi la rencontre entre jeunes et anciens, entre l'observance et la prophétie, sans esprit de fermeture et de rigidité, ce qui est également valable dans la vie consacrée. Cela fait du bien aux anciens de communiquer de la sagesse aux jeunes, a expliqué le pape. Et cela fait aussi du bien aux jeunes de recueillir ce patrimoine d'expérience et de sagesse et de le faire fructifier et non pas de le garder précieusement dans un musée pour le porter de l'avant afin de faire face aux défis que la vie nous offre pour le bien des différentes familles religieuses et de toute l'Église. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée de la vie consacrée ce dimanche. Retour maintenant sur les propos du pape après la prière de l'Angélus. Le Saint-Père a notamment salué et encouragé les associations, les mouvements et les centres culturels qui sont engagés dans la défense et la promotion de la vie. Le pape s'exprimait alors qu'est célébrée en Italie la journée pour la vie, avec pour thème cette année « Générer du futur ». Le pape s'unit ainsi aux évêques italiens pour rappeler que chaque enfant est le visage du Seigneur, amant de la vie, don pour la famille et la société. Que chacun, selon son propre rôle et dans son propre environnement, se sent appelé à aimer et à servir la vie, à l'accueillir, à la respecter, à la promouvoir, spécialement quand elle est fragile et qu'elle a besoin d'attention et de soins, du ventre de la mère jusqu'à sa fin sur terre, a déclaré le pape François. Ces paroles interviennent dans un contexte européen particulier. En Espagne, en effet, le projet de loi du gouvernement visant à réduire considérablement les raisons de recourir à l'avortement est vivement contesté. Samedi, une grande manifestation a lieu à Madrid pour dénoncer ce projet. Et puis en France, la tension n'est pas moindre, mais il s'agit cette fois du projet gouvernemental concernant la famille. Ce dimanche, deux grandes manifestations à Lyon et à Paris ont réuni les membres du collectif de la famille pour tous qui s'était illustré l'année dernière pour lutter contre le mariage pour tous. La mobilisation reste intacte, même si l'objet de la colère est différent. Cette fois, il s'agit de dénoncer la procréation médicalement assistée ou la gestation pour autrui. Vendredi, la ministre française de la Famille, Dominique Bertinotti, a affirmé que ce projet de loi ne prévoyait ni l'une ni l'autre, mais les manifestants craignent des amendements en ce sens, comme nous le confirme Tugdahl Derville, le porte-parole de la Manif pour tous. Nous l'avons joint alors qu'il défilait dans le cortège lyonnais.
Nous manifestons pour dire au gouvernement que nous ne pouvons pas passer sous silence la façon dont Mme Bertinotti laisse planer le doute sur la PMA pour deux femmes. Elle n'a pas voulu répondre lorsque nous lui avons demandé si un amendement voté cet accès pour deux femmes à la procréation médicalement assistée. Elle n'a pas voulu répondre ce que le gouvernement ferait et donc plane sur les enfants à venir. La menace d'être privée délibérément et tout à fait légalement en France de toute origine paternelle, de toute filiation paternelle. Et puis vous le savez aussi, par ricochet et par logique, ça aboutirait aussi à la gestation pour autrui, privant cette fois des êtres humains de toute filiation maternelle par la gestation pour autrui. Et puis deuxièmement, il y a eu ce scandale qui a été cette semaine, le scandale du genre à l'école, où on découvre que 10 académies sont expérimentées sur les enfants, sans l'avis des parents, sous prétexte d'égalité, de liberté, de fraternité, qui sont des très beaux mots. On introduit dans l'esprit des tout jeunes enfants un trouble sur leur identité sexuelle, en laissant croire que hommes et femmes sont interchangeables. Et là, nous demandons au gouvernement de suspendre immédiatement ces expérimentations, de faire la lumière, et au lieu d'être dans un grand déni assourdissant, de faire, notamment par une commission d'enquête, la vérité sur la façon dont certains idéologues tentent de modifier la culture, la civilisation, par les enfants, sans l'aval des parents.
On qualifie certains manifestants, évidemment, de réactionnaires. On lit la manifestation d'aujourd'hui avec celle de la semaine dernière, jour de colère. Comment est-ce que vous prenez ça ?
De manière très détendue. Moi, je crois qu'on a pu prouver que nous avions comme souci le bien-être des enfants. Non pas notre intérêt personnel, et c'est ça qui peut-être fait que le pouvoir en place, ou en tout cas un certain nombre de politiques, n'ont pas le logiciel pour nous comprendre. Ils voient tout en rapport de force. Ils voient même la société en un grand conflit entre deux classes, les hommes et les femmes, pour aboutir à ce que Didier Ribon appelle de ses voeux un genre universel. Donc ils ont un système de pensée qui est fait sur la lutte et la fracture de la société. Et nous avons simplement un témoignage à donner qui est que le plus vulnérable, le plus faible, doit être au cœur de la société comme protéger dans ses droits les plus fondamentaux, à commencer par celui de ne pas être privé de l'altérité sexuelle entre un homme et une femme dans son engendrement. Et ça, c'est paisible, c'est même, je crois, l'écosystème de base qu'est la famille et doit être protégé de tous ceux qui veulent le dénaturer, qui veulent l'abîmer. C'est un langage de bon sens et que la plupart des Français comprennent.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Une initiative saluée par le pape, très sensible aux problèmes liés à la pauvreté. Ce dimanche, l'aumônier du pape, Mgr Konrad Krajewski, a célébré une messe en mémoire d'une femme sans abri décédée en 1983. Elle s'appelait Modesta Valentini, elle avait 71 ans et elle vivait dans l'enceinte de la gare Termini à Rome quand, se sentant mal, elle a fait appeler une ambulance qui refusait de la prendre en charge en raison de son état de saleté. Elle mourut après des heures d'agonie. Ce décès choqua profondément alors la communauté catholique de Sant'Egidio qui depuis célèbre chaque année une messe en la mémoire de Modesta et cherche à aider les sans-abri par le biais de dîners itinérants, la création de cantines ou de lieux d'accueil. Mgr Krajewski a transmis à la centaine de fidèles présents, la plupart des SDF, un message du pape François qui regrettait de ne pas pouvoir venir. « Il vous embrasse tous très très fort », a alors déclaré l'aumônier du pape. La messe s'est déroulée dans l'église de Santa Maria in Trastevere, à deux pas du siège de la communauté de Sant'Egidio à Rome. Seconde partie de ce magazine avec l'invité du dimanche. Catherine Aubin nous a proposé la semaine dernière un entretien avec Catherine Chalier, une philosophe spécialiste du judaïsme et de l'œuvre d'Emmanuel Lévinas, professeure à l'université Paris 10 Nanterre. Aujourd'hui, elle nous explique l'importance de l'émotion et plus particulièrement des larmes, autre versant de la joie. Elle nous parle aussi de la nuit qui prépare le jour et enfin de la visite des anges dans la Bible en faisant le parallèle avec le visage qui se donne, qui appelle à veiller sur le prochain.
Catherine Chalier, vous êtes philosophe et vous avez aussi étudié les larmes dans la tradition rabbinique, dans la tradition judaïque, les larmes aussi dans les psaumes, les larmes qui sont un peu comme le pendant de la joie, des pleurs de joie. Comment expliquer cette émotivité que nous recevons à partir des psaumes et qui nous fait voir qui nous sommes et en même temps ne pas désespérer?
Je pense que la palette émotive des psaumes, elle est très grande. Elle va depuis la joie jusqu'au désespoir. Donc, ça me semble très important d'introduire la présence de l'émotion. Parce que très souvent, les philosophes ont tendance à penser que l'émotion, c'est ce qui nous trouble dans la quête de la connaissance et dans la quête de la vérité. Or, je pense que l'émotion, c'est pas simplement comme ça, se laisser aller à de l'irrationnel. Parfois, l'émotion voit plus clair en nous que notre intelligence discursive, et elle nous devance en quelque sorte. En particulier lorsqu'à la lecture de certains psaumes, justement, se lève en nous une joie furtive, on a l'impression que le texte s'adresse à quelque chose de très très profond en nous, et qu'il vient le chercher, qu'il vient le déloger, qu'il vient le faire vivre. C'est-à-dire que ce sont toujours les mots, M-O-T-S, qui sont comme ce qui nous aide à faire lever en nous ce qui est encore très en sommeil. Pour la question des pleurs, il y a une formule de Lévinas qui est très profonde. Il dit c'est comme quand un être tombe en humanité, c'est-à-dire ce sont quelque chose qui révèle une dimension de l'humain qu'il n'a pas toujours perçue lui-même. Donc ce tombe en humanité, c'est en particulier par rapport à celui qui veut être dur, qui veut ne pas montrer justement ses larmes, car comme si c'était de la faiblesse, alors qu'ici, elles peuvent être pensées comme justement un signe très profond d'humanité. Mais dans les commentaires bibliques, les larmes sont aussi un langage anthropopathique, c'est-à-dire prêté à Dieu, et donc Dieu pleure, il se retire pour pleurer, et donc loin d'avoir une image d'un Dieu pur acte, pure puissance, comme une certaine théologie marquée par la philosophie grecque a tendance à le penser, il y a aussi cette idée d'un Dieu justement qui est touché par ce qui advient aux hommes, qui est affecté par ce qui advient aux hommes, qui est aussi marqué par une certaine impuissance à les sauver directement. Et donc ce thème des larmes de Dieu, c'est un thème que l'on trouve corrélativement à une théologie de la non-puissance de Dieu.
Une théologie où Dieu se retire, comme dans la création.
Oui, comme dans la création, où Dieu se retire. C'est aussi aux êtres humains de jouer leur part maintenant, d'être co-créateurs. Ce n'est pas à Dieu d'intervenir directement. Ce thème du retrait de Dieu dans la création, c'est un thème extrêmement développé, en particulier dans la mystique juive. Dire l'idée que ce retrait est une nécessité. Et que ce retrait, non seulement c'est une nécessité, mais c'est aussi un acte d'amour, ce qui pourrait sembler contradictoire, mais pas du tout, parce que, en particulier, ce sont les chassidim qui développent ce thème-là, Dieu doit se retirer pour faire place au monde, pour faire place à la création. Et s'il ne cachait pas sa présence, sa lumière, son éclat, nous serions aussitôt anéantis, et donc nous ne pourrions pas exister. Et donc c'est un thème, le tzimtzum, le retrait de Dieu, soit le retrait, soit le cachement, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que le cachement, ça veut dire aussi qu'il est là, mais que nous ne pouvons pas le percevoir. Mais quoi qu'il en soit de l'interprétation, ce retrait est une nécessité, car nous ne pourrions pas vivre dans sa pleine lumière, nous serions aussitôt anéantis par l'éclat de son infinitude et de sa lumière. Et donc, cela peut nous sembler, le retrait ou le cachement, comme une attitude de rigueur, de sévérité, mais en fait, disent les racines, c'est une attitude d'amour. Et c'est justement par amour pour nous, pour que nous puissions exister, pour que nous puissions grandir. Et du sein de ce retrait ou du sein de ce cachement, il nous appelle.
Vous avez évoqué la lumière, lumière de la création, lumière de Dieu. Et vous avez aussi étudié la nuit et le jour. Et vous avez étudié dans votre livre « Nuit, jour », le paradoxe, mais aussi l'alliance de la nuit et du jour.
Oui, parce que souvent on oppose la nuit et le jour, et puis il y a des discours souvent très négatifs sur la nuit qui est associé à toutes sortes de phénomènes psychiques, spirituels, intellectuels, qui peuvent être pensés comme négatifs. Par exemple, les lumières, au sens de la philosophie des lumières au XVIIIe siècle, tout ce qui était nuit était du côté de l'ignorance et de ce qui nous empêche en effet de connaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces lumières devaient chasser la nuit. Or, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a une alliance entre la nuit et le jour. La nuit prépare le jour. Et ce qui est intéressant dans la tradition juive, c'est que le jour, en fait, commence le soir. Et donc, il faut traverser la nuit et aller au jour. Et donc, les deux sont liés. Et la nuit n'est pas, justement, simplement quelque chose dont il faut à tout prix sortir parce que c'est complètement négatif, mais elle est aussi promesse de jour. Et c'est un petit peu ça que j'ai essayé d'examiner dans le livre, même à des extrêmes parfois très profonds. Par exemple, lorsque l'on parle, et c'est un thème que l'on voit dans beaucoup de mystiques, chrétiennes en particulier, la Noche Oscura de San Juan de la Cruz, mais on voit ça dans beaucoup de mystiques, c'est-à-dire les moments, la nuit de la foi, c'est-à-dire le moment où justement cette adresse à Dieu semble folle et se heurter à rien du tout. Et en même temps, qu'est-ce qui donne la force de persévérer? Ça, on trouve ça dans beaucoup de trajets spirituels et mystiques des êtres humains. Je crois que vouloir faire l'économie de la nuit, de tout ce qui est associé à la nuit, soit en termes intellectuels, soit en termes moraux, soit en termes etc., c'est se tromper. C'est aussi la nuit qui va nous permettre de voir.
Quelle est la présence des anges? Alors, Catherine Chalier, la présence des anges auprès des hommes.
Alors, il ne faut pas tomber dans l'imaginaire. Dans la Bible, ils sont très présents, comme vous le savez. Donc, l'ange, c'est tout ce qui relie le visible à l'invisible. Donc, tout ce qui nous sort de la pure immanence, pourrait-on dire, et nous laisse entrevoir autre chose, qui nous surprend. L'ange est un visiteur qui surprend et qui nous appelle vers une réalité qui semble, à notre perception, tout à fait invisible. Pour dire les choses dans un langage qui soit le plus loin possible d'un imaginaire trop facile, ce n'est pas une apparition comme ça. Par exemple, lorsque Lévinas parle du visage humain, il dit « Le visage humain, ce n'est pas une réalité visible. Si je commence à décrire votre visage, je ne perçois pas le visage au sens de Lévinas. » Je suis en train de décrire un phénomène, or ça n'a rien à voir avec le visage. Mais je peux être saisi par le visage de mon prochain parce que quand je le perçois, j'entends une parole qui me dit « tu ne tueras pas ». C'est-à-dire « tu veilleras sur ton prochain, tu feras tout pour qu'il vive ». C'est-à-dire que le visage, il est dans la trace de l'infini et il vient me déloger de ma somnolence ou de mon activité et me demander quelque chose. Je trouve que la façon dont Lévinas parle du visage, que j'ai vraiment très 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 brièvement résumé ici, c'est exactement la même façon dont on peut parler des anges dans le texte biblique, c'est-à-dire ce moment d'une apparition qui peut sembler sensible, visible, mais qui en fait est d'un autre ordre et qui est de l'ordre de l'invisible. C'est invisible, il se manifeste, ça c'est biblique, il se manifeste par une parole. Or, quand Lévinas dit « le visage parle, le visage m'appelle, le visage me fait responsable », bien entendu, la personne qui porte ce visage n'a pas conscience de cela, elle ne le sait pas, mais par elle, cette parole vient me toucher, vient m'appeler, vient, pour employer un terme biblique, vient m'élire. C'est une parole d'élection.
Catherine Chalier, l'invitée du dimanche de Catherine Aubin, que vous pouvez retrouver ainsi que toutes nos autres interviews sur notre site internet www.radiovaticana.va. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure.